C'est un beau cantique qu'on a chanté, mais au fond, c'est un cantique qui peut nous interpeller. Et nous avons besoin du Seigneur, de son secours, pour réaliser pratiquement ce que nous avons chanté. Je la connais, cette joie excellente, que ton esprit Jésus met dans un cœur. Est-ce que je la connais vraiment? Je suis heureux, mon âme est contente, puisque je sais qu'en toi j'ai mon Sauveur. Je suis heureux. Je connais cette joie, je suis heureux. Est-ce que c'est bien ce que nous réalisons? Oui, nous avons connu, nous connaissons cette joie. Oui, nous savons, nous réalisons certains bonheurs dans cette assurance que le Seigneur est notre Sauveur. Mais il faut bien reconnaître que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas clamer, si je peux dire, à tout moment. Il y a des moments dans le chemin où cette joie excellente, c'est un souvenir. Ce bonheur, c'est quelque chose que nous avons pu connaître, mais que nous ne ressentons pas à ce moment-là. Et plus loin dans le cantique, que puis-je désirer à la troisième strophe sur la terre, puisque je suis l'objet de ton amour? Qu'est-ce que je peux désirer? Est-ce que ça ne nous arrive pas bien souvent de désirer des choses parfaitement vaines et qui n'ont rien à voir avec l'amour du Seigneur? Alors il y a des ressources, en particulier ce dernier verset de la strophe 4, c'est qu'un racheté n'est pas un orphelin. Oui, voilà une ressource. Et puis bon, on pourrait prendre tout le cantique dans son ensemble. Ce que je voudrais lire deux passages. J'en avais encore un troisième dans la tête, mais je n'arrive plus à retrouver où il est. Je vais d'abord lire dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Néhémie 8, au début du chapitre. « Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes, et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Et il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Et Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait fait pour l'occasion. Et Matitia, et Shema, et Anaya, et Uri, et Ilkija, et Maaseya se tenaient à côté de lui à sa droite, et à sa gauche Pedaya, et Mishaël, et Malkija, et Hashum, et Asbadana, Zacharie, et Meshulam. Et Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en élevant les mains. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et Jeshua et Bani et Sherebia et Jamin, Akub, Shaptaï, Odija, Maaseya, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Et le peuple se tenait à sa place, et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Et Néhémie, qui était le Tirshatha, et Esdras, le sacrificateur, le scribe, et les Lévites, qui faisaient comprendre au peuple ce qu'on lisait, disaient à tout le peuple, « Ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu, ne menez pas deuil et ne pleurez pas. » car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et Néhémie leur dit, « Allez, mangez de ce qui est gras, et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Et le deuxième passage, dans le Deutéronome au chapitre 16, verset 13, Deutéronome 16, verset 13, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. Et tu te réjouiras dans ta fête, toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante, et le lévite et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Tu feras pendant 7 jours la fête à l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu ne seras que joyeux. » Alors si on commence juste par ce passage qui est un de ces chapitres qu'on a dans le livre de Moïse, qui passe en revue les différentes fêtes, la fête des tabernacles qui est la dernière fête de l'année, au 7e mois, qui durait 8 jours, et là, comme on l'a lu, c'est le moment où l'année se termine, on a achevé de rentrer toutes les récoltes. Toutes les récoltes ont été rentrées. Donc, l'Israélite avait devant lui, à ce moment-là, des greniers, des caves remplies de tout ce que l'Éternel leur avait donné, tout le fruit des récoltes. Il voyait le résultat d'une année où Dieu avait béni. Ou alors, si on va dans le livre d'Agé, par exemple, on voit des caves, des greniers vides. Parce que Dieu n'avait pas pu bénir. Mais dans les choses telles que Dieu les avait données, ça aurait été, ça devait être normalement ce moment de l'année où l'on voyait tout le résultat de l'année passée en termes de fruits, de récoltes, de ce que Dieu avait donné. Tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. L'aire et la cuve qui nous parlent du blé, des céréales, blé, orge, et du raisin. Symbole de pain, le vin, symbole de l'abondance, de la prospérité, de l'assurance qu'il y a de quoi passer l'hiver jusqu'à l'année suivante et de pouvoir semer pour l'année récolte de l'année prochaine. Et alors, c'est une fête, bien sûr, si les greniers et les caves sont remplis, ben, c'est un sujet de joie. Et alors, on a cette invitation d'avoir cette fête de 7 jours avec cette dernière phrase du paragraphe, « Tu ne seras que joyeux. » Tu ne seras que joyeux. Ah oui, il y avait eu avant la fête, le grand jour des propitiations, où là c'était l'instruction de s'affliger, d'affliger. Ce jour où le sacrificateur, Lévitique 16, devait rentrer dans le lieu saint avec un sacrifice pour que Dieu puisse supporter de nouveau le peuple avec toutes ses errances. Et puis ce bouc qui devait être chassé, envoyé au désert, portant sur lui les péchés que le sacrificateur avait confessé sur sa tête. Le péché, les péchés, image de l'œuvre du Seigneur. Là, on est derrière, on est après cela. On est vraiment dans la fête qui rappelle la bénédiction de Dieu. Et alors, cette invitation, une fête de 7 jours, avec le 8e jour, qui est, quand on regarde les prescriptions qu'on a dans d'autres passages, qui a terminé la fête, qui nous ouvre la porte en quelque sorte sur l'éternité, et une fête où on ne devait être que joyeux. Et puis, si on vient à Néhémie, à ce chapitre 8, bah, dès le début du passage, on voit que le rapport avec ce paragraphe du Deutéronome. Le septième mois, le premier jour du septième mois, la fête des tabernacles. Et tout le monde est réuni. Le contexte de Néhémie, en deux mots, faible retour de la transportation par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a eu en Esdras cet ordre de Cyrus pour revenir de la transportation. Construction de l'autel sur son emplacement. Construction laborieuse avec des arrêts du temple sur ses fondations. Et puis, de nouveau, du laisser-aller, du découragement, des associations problématiques. Les murailles sont toujours en ruine, la ville est peu habitée et en partie en ruine, et le retour de Néhémie. Et quand on en est au chapitre 8, la muraille a été construite, reconstruite, dans des conditions difficiles, mais avec l'aide du Seigneur, qui a donné à la fois l'énergie, les forces, qui a gardé des pièges de toutes sortes. Et alors, les fils d'Israël étaient dans leur ville et tout le peuple s'assemble comme un seul homme à Jérusalem sur la place qui est devant la porte des yeux. Et on peut remarquer tout de suite, ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse. Ce n'est pas une initiative d'Esdras, c'est une demande du peuple. Qu'est-ce qui a amené le peuple à cette demande? La parole nous ne le dit pas. Mais nous voyons un travail de l'esprit dans ces hommes, dans ces femmes qui veulent revenir à la parole, qui sentent ce besoin d'entendre la parole. Chacun n'avait pas, pour les enfants, rappelez, chacun n'avait pas une Bible chez lui, un Ancien Testament. Les livres disponibles à ce moment-là, c'était les livres de Moïse, c'était certains des livres historiques, des prophètes, des psaumes. Ben, le livre de Néhémie n'était pas écrit. D'autres livres n'étaient pas encore écrits. Mais il y avait la parole que Dieu avait donnée, la loi, les prophètes. Besoin de s'approprier, de se faire sien ce que Dieu avait dit. Ils demandent, ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et alors, Esdras, les sacrificateurs des Lévites, Esdras le scribe, avec les Lévites autour de lui, lisent. Je passe sur le premier paragraphe qui nous décrit comment les choses se sont faites. Il y a peut-être juste un ou deux points qu'on peut relever. Verset 3, il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Et puis, étape suivante, verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit Amen. Et puis, étape suivante, les Lévites, verset 7 au milieu, faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple se tenait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Il ne faut pas nous imaginer pratiquement les choses, mais déjà nous pouvons penser à un aspect pratique. Il y avait beaucoup de monde réuni là. Donc on peut penser, il y a une dizaine de noms qui nous sont donnés de Lévites, et puis les Lévites, verset 7 au milieu, plus que certains sont nommés, d'autres ne sont pas nommés. Est-ce qu'après une lecture publique d'Esdras, il y a eu une lecture par groupe, ici ou là, avec les Lévites, qui expliquaient des Israélites qui posaient des questions, ce qu'ils ne comprenaient pas, et les Lévites donnaient le sens et faisaient comprendre ce qu'on lisait. Et puis, il se passe quelque chose qui ne nous est pas explicitement dit. On le comprend dans la suite. On le comprend à partir dans le verset 9, qu'il se passe quelque chose à cette lecture. Parce que Néhémie, le Tirshatha, donc le gouverneur à part du roi de Babylone, et Esdras, le sacrificateur, les Lévites, qui faisait comprendre le peuple, sont amenés à dire « Ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu, ne menez pas deuil, ne pleurez pas. » Ah oui, ne menez pas deuil, ne pleurez pas. Parce que qu'est-ce qu'ils constataient ? C'est que cette lecture de la loi, ces explications du sens de la loi, amènent dans les cœurs la tristesse et non pas de la joie. Amènent des larmes. Travail touche les consciences et les cœurs. Et il faut que ces sacrificateurs, ces scribes, ces lévites ont conscience que, mais nous venons de lire dans le Deutéronome, la fête des tabernacles, c'est un jour de joie. Ça ne convient pas, selon la loi même de Moïse, qu'on s'attriste, qu'on pleure ce jour-là. Mais voilà, ce n'est pas en claquant des doigts et en donnant un ordre que la joie vient dans le cœur. Quand il y a là ce deuil, cette tristesse, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, c'est l'étape nécessaire pour que la joie puisse venir, remplacer la tristesse. Il y a ce passage de pleurer, mener deuil, pour qu'il puisse y avoir la joie. Voilà le premier effet de la parole. Justement, et son frère a peut-être en souvenir ce passage, je n'arrive pas à le retrouver dans le Nouveau Testament, où il est dit que, je ne sais plus le début du verset, qui n'est pas un sujet de joie, mais plutôt de tristesse. C'est ça le troisième passage auquel je pensais, mais je vais en rester à ce qui est Néhémie. Et voilà. En tout cas, voilà. Verset 10, Néhémie leur dit « Allez, mangez de ce qui est gras, buvez de ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. » Le réjouissez-vous, que dit Néhémie, il est basé sur quoi ? Ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Ce que la parole fait dans votre cœur a toute son importance, mais la parole vous dit, nous dit, disait à ce peuple-là que c'était un jour pour l'Éternel. Et que cette joie que l'Éternel ordonnait, si je peux dire, tu ne seras que joyeux, c'était une joie en considérant la bénédiction que Dieu a donnée. En considérant, en regardant en arrière le chemin derrière. La fête des tabernacles, c'est quoi ? C'est la fête qui rappelle la traversée du désert. Les Israélites, dans l'ordonnance de la fête des tabernacles, j'ai dit autre chose d'abord, la fête des tabernacles elle n'a de sens que quand le peuple est arrivé dans le pays. Le peuple arrivé dans le pays va s'installer dans ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel, avec des villes, des maisons, tout ce qui est là, qu'ils doivent prendre, s'approprier, et ils habiteront, il y a l'expression quelque part, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Et ils vont se mettre à habiter dans les maisons et plier les tentes, ils n'en ont plus besoin. Tout au plus le berger quand il garde des troupeaux, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a plus besoin de tentes. La fête des tabernacles, les Israélites doivent aller construire des tentes, des cabanes, hors de leur maison, pour rappeler le chemin du désert où ils ont vécu pendant 40 ans, jour après jour, dans des tentes, avec ces déménagements successifs d'un campement à un autre campement. Nomades dans des tentes, dans le désert. Et cette fête, devant la vue de l'abondance, la bénédiction par les récoltes rappelle en même temps la marche au désert et dans cette marche au désert, la fidélité de Dieu qui a donné tous les jours la manne, qui a donné l'eau du rocher frappé, qui a donné du repos malgré la marche au désert. Et devant à la fois la fidélité de Dieu dans le désert, la fidélité de Dieu pour conduire au but que lui-même avait fixé, la fidélité de Dieu en leur donnant la victoire et leur permettant d'occuper ce pays, Et encore la fidélité dans ses récoltes, d'année après année, l'Israélite peut se réjouir. Se réjouir de cette fidélité même de Dieu, se réjouir en Dieu qui lui a donné tout ce dont il avait besoin. On peut remarquer que dans le passage du Deutéronome, il y a l'énumération, si on reprend juste, Deutéronome 16. Tu te réjouiras dans ta fête, toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante. Voilà une cellule familiale. Ensuite, on va un peu plus loin. Et le Lévite qui n'avait donc pas de part dans la terre et qui dépendait des dîmes. Il n'avait pas ses propres récoltes, mais c'était les dîmes de la récolte que faisaient les Israélites qui servaient de subsistance pour les Lévites. Mais le Lévite, voilà, il doit profiter de cette abondance dans cette fête aussi. L'étranger, celui qui est étranger au pays, l'étranger même peut profiter de cette abondance, de ces bénédictions. Et puis en particulier deux catégories, l'orphelin et la veuve, ceux qui sont privés du soutien normal, qui doivent aussi profiter de cette fête. Pour eux aussi, ça doit être un jour de joie, une fête. Tout le monde prend part. Tout le monde a part à cette fête. Elle est pour tous, parce que cette joie, elle est pour tous. Alors, verset 10, « Allez manger de ce qui est gras et buvez de ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Et ça, c'est une expression que l'on peut bien retenir. La joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel, on peut le prendre comme la joie en l'Éternel, mais la joie aussi que Dieu, que donne l'Éternel, est votre force. Et les Lévites tranquillisaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et ces paroles, verset 12, nous montrent comment ces paroles consolent. Ces paroles ont cet effet de remplacer le deuil et la tristesse par cette joie-là, justement. Ce n'est pas la joie de faire bonne chère, c'est la joie dans l'Éternel, la joie de se rappeler la fidélité de Dieu sous toutes ses formes. Fidélité dans les choses passées qui nous encouragent à regarder en avant dans la confiance. Associé au souvenir de la fidélité, il y a la foi dans le cœur, la foi qui répond à Dieu et qui peut alors réaliser ce que nous avons chanté dans ce cantique, se réjouir, goûter, pouvoir dire notre joie dans le Seigneur. J'en reste là, si un frère se souvient du passage là que je ne retrouvais pas, ça peut être en complément, mais que le Seigneur nous aide à faire ce chemin et à saisir, comme l'apôtre Paul le dit dans les Philippiens, à plusieurs occasions, nous réjouir dans le Seigneur.
Juste quelques remarques sur Néhémie 8, le chapitre 8 de Néhémie. Avant, je voudrais lire un verset dans le prophète Habacuc. Page 645. Habacuc, chapitre 3, verset 2, c'est une prière d'Habacuc. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années. la prière d'Habacuc, son intercession à l'Éternel, c'était que l'Éternel ravive son œuvre au milieu des années. Et c'est sans doute aussi, peut-être aujourd'hui, le souhait de nos cœurs que Dieu ravive son œuvre au milieu des années dans l'Assemblée. Nous avons une tendance à nous assoupir, à nous endormir, et c'est un sujet de prière et de supplication que l'Éternel ravive son œuvre au milieu des années. Le chapitre 8 de Néhémie nous parle d'un réveil qui a eu lieu après le retour à Jérusalem d'une partie du peuple qui revenait de Babylone. Et je voudrais indiquer, avec l'aide du Seigneur, quelques points essentiels pour un réveil. Le premier point, nous le trouvons au premier verset du chapitre 8. Il nous est dit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Le premier point d'un réveil, c'est de réaliser que nous sommes unis ensemble, que de réaliser que les croyants forment le corps de Christ, le peuple de Dieu forme le corps de Christ, et nous sommes unis ensemble dans ce corps. Et si nous ne pouvons pas le réaliser pratiquement avec tous les croyants sur la surface de la terre, eh bien, nous sommes quand même appelés à réaliser ce qu'est l'unité du corps de Christ. Et nous voyons donc dans le chapitre 8, au premier verset, le peuple qui s'assemble comme un seul homme. Ils réalisaient l'unité. Bien qu'ils étaient peu nombreux, ils réalisaient l'unité du peuple d'Israël. C'est le premier point. Le deuxième point pour un réveil, nous l'avons lu tout à l'heure, Jacques l'a lu au verset 3. Il est dit « Et il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes » et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. » Le deuxième caractère d'un réveil, c'est la faim et la soif de la parole de Dieu. Et nous voyons que les hommes, toute la congrégation, étaient réunis pour entendre la loi, pour entendre donc la parole de Dieu à ce moment-là. Et on la lit donc depuis l'aube, c'est-à-dire les premières lumières du jour, jusqu'à midi. Et nous voyons qu'il y avait cette attention, hein, tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. C'est-à-dire non seulement tout le peuple qui était rassemblé ensemble et uni à ce moment-là, non seulement avait faim et soif de la parole de Dieu, mais nous voyons qu'il y a eu l'action de cette parole sur les cœurs et sur les consciences. Tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Si nous désirons que Dieu ravive son œuvre au milieu des jours, des années, Eh bien, la première des choses, c'est que nous réalisions en pratique que nous sommes unis les uns aux autres. La deuxième chose que nous devons réaliser, c'est avoir faim et soif de la parole de Dieu et que cette parole ait de l'action sur nos cœurs et sur nos consciences. Nous devons prêter l'oreille à ce que nous dit la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et nous voyons au verset 8 que ceux qui sont nommés lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Je crois qu'un peu plus haut, il est dit que Esdras ouvre le livre et il se tient debout et nous voyons qu'il était sur une estrade de bois au verset 4, c'est-à-dire que la parole de Dieu était au-dessus, quand elle était lue, elle était au-dessus de la tête de tous ces hommes et de ces femmes qui étaient réunis. C'est-à-dire la loi, la parole de Dieu, avait toute autorité sur les consciences et sur les cœurs. Et d'abord, avoir faim et soif de la parole de Dieu, et il faut que non seulement elle ait son action sur nos cœurs et sur nos consciences, mais qu'elle ait toute son autorité sur nos cœurs. Et c'est la grande question aujourd'hui, est-ce que la parole de Dieu a toute autorité sur nos cœurs et sur nos consciences? On peut la lire, la parole de Dieu, d'une manière distraite. On peut l'entendre sans qu'elle pénètre comme elle devrait le faire, à l'intérieur, dans l'homme intérieur, et y produire ce bon fruit qui est nécessaire dans nos cœurs et dans nos consciences. Et nous voyons que le peuple donc se tenait à sa place, et donc il y avait ces hommes qui lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. La tendance actuelle dans la chrétienté, et c'est un grand danger qui peut nous gagner, c'est de faire disparaître la frontière entre le péché qui doit être jugé dans nos voies et la faiblesse ou notre misère. On entend souvent, à juste titre, que nous parlons de notre misère, notre faiblesse. Mais la frontière, elle est souvent ténue entre le péché et notre misère et la faiblesse. Le péché, il faut qu'il soit jugé. Et notre infidélité ou notre désobéissance doivent être aussi jugées et confessées. Et alors nous voyons que le peuple, verset 8, là, il est élu distinctement, ces hommes donc faisaient comprendre la loi, c'est-à-dire, au fond, ils donnaient un enseignement à propos de la loi, non pas qui endormait les consciences, mais c'était un enseignement qui touchait les cœurs et les consciences. Et nous voyons la progression dans ce réveil, c'est-à-dire l'unité d'abord, qui est reconnue et vécue, la faim et la soif de la parole de Dieu, l'action de cette parole dans les cœurs et dans les consciences. Et nous voyons maintenant que le peuple prend conscience que sa marche n'était pas conforme à l'enseignement de la loi, à l'enseignement du Saint-Livre. Et c'est ce qui amène à la confession, et c'est ce qui amène au fond à l'humiliation. Et comme Jacques l'a lu, le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est-à-dire que le peuple, à ce moment-là, prenait conscience de ses manquements et que sa marche n'était pas conforme à l'enseignement de la loi et, en ce qui nous concerne, à l'enseignement de la parole de Dieu. Si nous désirons un réveil, que Dieu produise un réveil, eh bien, ce réveil, il commence d'abord en chacun de nous. Chacun de nous doit prendre conscience de ses propres manquements. Et comment pouvons-nous prendre conscience de nos manquements afin d'en avoir l'humiliation et produire donc cette confession qui est nécessaire? C'est uniquement en lisant la parole de Dieu. Ce n'est que en lisant la parole de Dieu que nous pourrons prendre conscience de notre éloignement vis-à-vis de Dieu et nous pourrons prendre le chemin du retour vers lui que dans la mesure où nous aurons confessé chacun nos propres péchés. Et alors, nous voyons que au verset 10, Jacques l'a lu aussi, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » On a chanté dans le cantique tout à l'heure, justement, la joie de la communion. Eh bien, nous voyons que le peuple va goûter maintenant et jouir et goûter la joie de la communion avec son Dieu. Et la chronologie que nous présente ce chapitre 8 est une chronologie que Dieu nous donne, ses humiliations, ses confessions du péché, ses séparations du mal, en ayant pris la conscience de ce que nous faisons qui n'est pas bien, et la joie enfin qui est retrouvée, la joie de la communion avec notre Dieu. Juste encore le verset premier du chapitre 9, nous voyons que le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne et vêtus de sacs et avec de la terre sur eux. Et ils étaient vêtus de sacs. Et ce verset exprime la réalité de leur humiliation et de leur confession. La parole de Dieu les avait éclairés quant à leur conduite passée. Les péchés les plus secrets avaient été mis à découvert à la lumière de la parole de Dieu. Ils étaient frappés dans leur cœur et leur conscience aussi à cause de leur transgression. Et c'est un état qui est propre à un réveil dans le peuple de Dieu. Et pour être à ce moment-là de vrais témoins pour Dieu. C'est le souhait sans doute de nos cœurs qu'il y ait des réveils encore dans la chrétienté avant le retour du Seigneur, afin qu'il puisse se la présenter à lui, glorieuse et irréprochable. Et ces pages de l'Écriture, il y a d'autres pages de l'Écriture qui nous parlent de réveil. Par exemple, l'histoire d'Ézéchias, 2 Chroniques 29, 30. Si nous regardons à peu près la même chronologie, on voit exactement la même chose. Et donc, lisons la parole de Dieu et qu'elle ait son effet sur nos cœurs et sur nos consciences.
Le verset auquel je pensais que je ne retrouvais pas, c'est dans Hébreux 12, verset 11. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Il y a ce moment où le travail de Dieu produit de la tristesse, mais il y a après ce fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Et puis juste encore une petite remarque par rapport à ce que Michel vient de nous dire. Je lisais dans la biographie d'un pasteur chrétien, d'un pasteur calviniste du 19e siècle, cette remarque comme quoi c'était un homme qui prêchait les réveils tout en sachant qu'il aurait mieux valu ne pas s'endormir. Quelque chose qu'on peut retenir sous forme un peu d'une boutade, mais qui peut nous sonder, quoi. Il n'y a de réveil que parce qu'on s'est endormi. Il n'y aurait pas de réveil nécessaire si on ne s'endormait pas.
Oh, Je voudrais juste rajouter un petit complément. Là, comme il a été dit, la parole de Dieu met en lumière les choses, est un révélateur. Et des fois, ça peut nous rendre tristes, un peu comme ça nous a été montré dans Néhémie. Ouais. Parce que ça montre nos faiblesses. Mais connaître la parole aussi, ça peut être une formidable source de bonheur. Parce qu'elle nous apprend aussi que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de notre Seigneur. Nous connaissons aussi les bénédictions qui y sont associées. Et c'est un peu le revers, quoi, le pas le revers, l'autre côté de la pièce peut-être. Je voudrais juste lire quelques passages dans Matthieu. Dans Matthieu 5, dans ce passage où il y a une certaine similarité, cette fois c'est le Seigneur qui enseigne, qui apporte la parole. Mais dans ce passage-là, il y a de très nombreuses fois le mot « bienheureux » qui est utilisé. C'est heureux justement, heureux complètement. Et des fois associé à des circonstances qui peuvent nous paraître quand même loin d'être des circonstances heureuses. Et pourtant, elles y sont associées. Parce que connaissant la parole de Dieu, connaissant notre espérance, nous avons une idée de ce qui, des choses qui se cachent derrière, des secours que le Seigneur est là aussi pour nous porter. Et d'avoir cette connaissance de la parole nous permet aussi de mesurer à quel bénéfice, comment le Seigneur aussi agit dans ces circonstances. Matthieu 5. Or, voyant les foules, il, le Seigneur Jésus, monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approcha de lui, et ayant ouvert la bouche, il les enseigna, disant, « Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. » Je ne vais pas lire tout le passage, mais c'est bien d'avoir ça en tête, le mot « bienheureux » qui est associé à des circonstances très dures, parce que connaissant la parole, ayant marché derrière le Seigneur, le connaissant, nous savons à quel point il peut être avec nous, nous porter, nous soutenir, nous consoler, nous corriger, nous reprendre aussi. Mais nous connaissons toutes ces choses-là et ça nous permet de voir à travers toutes ces circonstances aussi le bonheur qui se cache de les traverser avec notre Seigneur.